La dernière fois, nous avons vu le mariage comme sacrement. Hein, qui dit sacrement dit signe sacré et en même temps moyen de sanctification d'union à Dieu. Avec la définition du sacrement, c'est un signe efficace de la grâce. Et nous avons vu en même temps que la grâce du sacrement de mariage, elle est greffée sur la grâce du baptême. Et que c'est cette grâce du baptême, la charité divine, l'amour divin, qui prend une modalité propre, qui devient charité conjugale, selon l'expression traditionnelle. Et à partir du moment où les époux vivent vraiment cette charité conjugale, non seulement ils signifient l'amour du Christ pour l'Église, et l'amour du Christ pour tout homme, mais ils participent à cet amour, c'est-à-dire ils aiment avec la charité qui est dans le cœur du Christ. Donc ils ne sont pas simplement des signes, je dirais, je veux dire, le mariage naturellement, il fait signe vers une réalité qu'il dépasse, qui est cette union de Dieu à l'homme, hein, du Dieu époux avec l'humanité, mais ils laissent transparaître le mystère. Je veux dire que le mariage est fait pour être un signe lumineux, un signe vivant, qui de fait laisse voir ce mystère de l'amour de Dieu pour chacun de nous, du Dieu époux. Mais il l'est dans la mesure où les époux participent réellement et effectivement à cet amour nouveau qui est dans le cœur du Christ. Autrement dit, la première mission des personnes mariées, c'est de laisser resplendir un mystère, de le laisser transparaître, ce mystère de l'union de Dieu avec nous et avec l'Église. Et cette union, elle a deux caractéristiques. C'est que Dieu s'est donné une fois pour toutes. Christ a aimé l'Église en se donnant totalement à elle, d'un amour absolument fidèle. Jésus ne se séparera jamais de son Église. Et c'est pourquoi le mariage exige la fidélité et l'indissolubilité. L'indissolubilité du mariage est là pour permettre au mariage de fait de signifier d'une manière réelle, concrète, la fidélité de Dieu. Je vous cite le catéchisme. Le motif le plus profond de l'indissolubilité du mariage se trouve dans la fidélité de Dieu à son alliance, du Christ à son Église. Par le sacrement de mariage, les époux sont habilités à représenter cette fidélité et à en témoigner. Je disais la dernière fois, pour que des enfants en catéchisme puissent comprendre que Dieu est fidèle, ils ont besoin du témoignage de leurs parents, que le mot fidélité ait un sens. Alors, pour mieux comprendre cette vocation de signe vivant, de signe lumineux, qui est propre au mariage en tant qu'il signifie plus spécifiquement donc cette alliance entre le Christ et l'Église, je vais élargir un peu la perspective en reprenant les choses par rapport au mystère de l'Église. Le mystère de l'Église va éclairer le mystère de la famille et le mariage. Juste avant, il y a une personne qui me disait qu'on n'avait pas le temps de réfléchir sur soi. Ici, on va prendre le temps de réfléchir à partir de l'Évangile. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Ici, n'ayons pas peur de nous poser la question du sens de notre vie. Nous sommes faits pour quoi? Nous sommes faits pour être des lampes allumées qui brillent et en brillant glorifient Dieu. L'Église a toujours dit que la vocation de l'homme, c'était pour la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Évidemment, quand on dit ça comme ça, moi pendant longtemps, ça ne me disait absolument rien. Et je commence à mieux comprendre ce que signifie être créé pour la gloire de Dieu. Et ça, que nous le voulions ou non, nous sommes faits pour glorifier Dieu. Et comment ? Jésus parle d'un lampadaire. Il y a une lampe qui est allumée, il y a un lampadaire qui permet à la lampe donc de briller dans toute la maison. Le lampadaire, c'est quoi ? Lampadaire, c'est notre corps. La lumière qui brille, c'est la lumière de l'amour divin, de la charité. C'est en même temps la connaissance de Dieu, puisqu'on connaît Dieu dans l'amour. La connaissance de Dieu que nous portons, l'amour de Dieu que nous portons dans notre cœur, est une lumière qui doit briller en étant posée sur le lampadaire, c'est-à-dire en étant rendue visible à travers notre comportement, notre manière de vivre. Tout ce que vous faites, dit saint Paul, faites-le pour la gloire de Dieu. Vous demandez pourquoi vous êtes sur terre, vous commencez à douter du sens de votre vie. Dites-vous, je suis sur terre pour dire Dieu aux autres. Je suis sur terre pour révéler le vrai visage de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Ainsi, le connaissant, ils glorifieront Dieu. Première vocation, elle est de rendre visible l'invisible. C'est pour ça que Dieu nous a voulu esprit incarné, dans un corps. C'est-à-dire que nous avons un avantage sur Dieu du fait que nous avons un corps, mais il nous a créés, il n'a pas voulu que nous soyons comme des anges, il a voulu que nous soyons capables de refléter visiblement. Ce qui est de l'ordre du mystère. Nous allons essayer à partir de là de comprendre plus précisément donc la vocation au mariage à l'intérieur de la vocation première de tout baptisé, qui est la vocation prophétique. Par la grâce du baptême, nous sommes prophètes. Prophète, c'est celui qui révèle Dieu au monde, qui dit Dieu. Et en même temps, nous comprenons pourquoi l'Église est appelée le corps du Christ. Elle est là pour rendre Jésus visible dans le monde. Nous avons un corps et l'Église est un corps. Parce qu'elle est un corps, l'Église, parce qu'elle est visible, elle est appelée aussi un sacrement. L'Église elle-même est le premier sacrement, vous devez dire sept sacrements, vous savez bien, mais l'Église elle-même dit qu'elle est elle-même un sacrement, le sacrement universel du salut. Pourquoi elle est un sacrement? Parce qu'elle est elle-même signe. Elle est signe de Dieu. Chacun de nous l'est, et l'Église tout entière est signe de Dieu. Ça veut dire quoi aussi? Quelque chose de très beau sur lequel Benoît XVI insiste, c'est que l'Église, elle n'est pas faite pour se faire voir, excusez-moi l'expression. Elle n'est pas faite pour se glorifier. Elle n'est pas une grosse entreprise qui ne chercherait que son accroissement et que son intérêt en essayant d'avoir le plus d'adeptes possible. Elle est faite pour briller de manière la plus pure. Il n'y a pas besoin nécessairement de beaucoup de lampes allumées, mais il faut que les lampes, la lumière brille vraiment pour que le monde voie Dieu et soit sauvé. Parce que depuis le péché originel, les ténèbres sont rentrées dans le monde et il y a un combat entre les ténèbres et la lumière et le monde a besoin de retrouver le goût de Dieu, de retrouver le sens de Dieu. Ce qui m'impressionne le plus au catéchisme, c'est à voir à quel point les enfants ont perdu le sens de Dieu. La mission de l'Église, encore une fois, elle est complètement décentrée d'elle-même. Elle est là pour permettre aux hommes de toute nation, de toute culture, j'ai envie de dire de toute religion, quelque part en voyant vivre les chrétiens, de connaître, de découvrir le vrai visage de Dieu. C'est la mission de l'Église, c'est la mission de chaque baptisé qui est membre de ce corps, et c'est ça qui qui fait la vraie beauté d'une vie. Qu'est-ce qui restera de notre vie, la traînée de lumière que nous aurons laissée derrière nous? Le témoignage de Dieu, être témoin du mystère de Dieu dans le monde, a une valeur pour l'éternité. Et je dis que c'est profondément réconfortant parce que nous pourrons toujours signifier Dieu, même à travers une vie toute simple, nous pourrons toujours donner Dieu aux hommes. Puisqu'en définitive, ça ne dépend pas de la grandeur des actes, mais de du feu qui brûle au fond de notre cœur, qui peut laisser donc transparaître Dieu à travers même des gestes très simples. Je vous donne simplement un témoignage. J'ai connu à l'hôpital, à l'Hôtel Dieu, un garçon qui faisait maintenant on dit plus éboueur, mais agent de propreté, je crois. Technicien, oui. Enfin, il passait au JMJ pour ramasser les poubelles. Et il a juste le temps de voir, mais de très loin, Jean-Paul II. Juste quelques secondes. Et il m'a dit, 2 ans après, je vais à l'hôpital, c'était quelqu'un de très loin de la foi. Il m'a dit, quand je l'ai vu, j'ai vu la lumière. Comment nous reflétons Dieu à travers ce que nous sommes, ça nous dépasse complètement. Saint Augustin dit l'amour divin, l'amour est une lumière spirituelle. La manière dont cette lumière spirituelle rayonne et touche le cœur, ça nous dépasse complètement. Mais c'est ça la beauté et je dirais aussi la fécondité profonde de notre vie. L'acte d'évangélisation, dit Benoît XVI, c'est que le Dieu lointain, le Dieu abstrait, s'approche. Le Dieu inconnu se fait connaître, le Dieu montre, se révèle, montre son visage, son vrai visage. Le Christ est venu pour ça, Dieu s'est fait homme pour ça, et l'Église, c'est Jésus continué. C'est le corps du Christ, c'est Jésus qui continue à rendre visible le mystère de Dieu. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Les choses ne s'arrêtent pas là. Par rapport au sens de notre vie, nous réfléchissons, en fait, qu'est-ce que signifie de dire que l'Église est un corps? Ça signifie aussi de dire que nous sommes, Jésus nous a rassemblés en un seul corps, c'est-à-dire que nous sommes dans une unité, que signifie, c'est plus qu'une organisation, l'Église. C'est un vrai corps avec cette dépendance des uns des autres et cette unité profonde fait que nous sommes animés par le même esprit que l'Esprit Saint. Autrement dit, pour que le mystère de Dieu se reflète à travers l'Église, Dieu a voulu que son Église soit communion. Et pourquoi Dieu a-t-il voulu que l'Église soit communion, que nous sommes appelés à une vie de communion, en étant baptisés, nous sommes incorporés. Pourquoi notre vie chrétienne doit être vécue pas simplement comme un témoignage, je dirais, isolé, au sens où chacun est appelé à poser des actes de charité qui laissent transparaître l'amour divin, qui laissent transparaître Dieu, mais parce que Dieu lui-même est un mystère de communion. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. L'Église est appelée à vivre une unité qui reflète l'unité première qui se vit en Dieu, l'unité du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. On pourrait dire qu'il y a deux choses que l'Église comme communion doit refléter, à la fois que toute union reflète à la fois le mystère de Dieu et le mystère aussi de l'union de Dieu avec l'humanité, ce que signifie d'une manière plus particulière le mariage. C'est ainsi que la foi se propage. Comme dit Jean-Paul II, la communion engendre la communion. Quand je vois un couple qui s'aime dans l'amour divin, quand je vois une communauté, dans un groupe de prière, une communauté d'esprit, de cœur, et que je m'approche de cette communion, eh bien, la communion engendre la communion. C'est un espace spirituel qui se crée dans lequel ceux qui ne connaissent pas encore Dieu sont attirés par la beauté de cet espace, de cette communion. Et ils rentrent, si je puis dire, naturellement dans la vie de Dieu, en même temps qu'ils perçoivent ce mystère, ils sont attirés, ils rentrent et ils deviennent participants. La communion, elle fait tache d'huile. Dans une paroisse, il y a quelques personnes qui vivent une profonde communion, à commencer par les prêtres, hein, s'ils vivent en communion les uns avec les autres. Ça fait tache d'huile sur la paroisse, ça se répand. Naturellement. Et ça, vous voyez, c'est l'évangélisation en profondeur. Il y a le témoignage personnel, et puis il y a le témoignage de deux ou trois réunis au nom de Jésus, qui laissent transparaître, je dirais, pas seulement l'amour de Dieu, mais aussi le mystère de Dieu comme mystère de communion. Et en même temps, le mystère du royaume de Dieu, c'est-à-dire de l'union de Dieu à chacun de nous, qui est le royaume de Dieu, est lui-même aussi un mystère de communion. À partir de là, on devrait pouvoir comprendre la famille comme petite église. En faisant une seule chair, dans la charité du Christ, dans cet amour nouveau, les époux réalisent donc une communion toute particulière, hein, et particulièrement visible. Une union qui est appelée être totale, et avec cette grâce aussi unique, ce nom d'une union corporelle, une seule chair. Il reflète ainsi le mystère de Dieu, et pas simplement le mystère de l'union du Christ et de l'Église, les deux à la fois, disons. Et ça, c'est la première fécondité du mariage. Ici, vous comprenez qu'un couple qui n'a pas d'enfant, l'Église a toujours, je dirais, marié des gens qui soit n'étaient plus en âge d'avoir des enfants, soit savait qu'ils étaient stériles, parce qu'elle a toujours cru en cette beauté et en cette fécondité primordiale du mariage, de faire une seule chair pour refléter d'une manière spécifique, propre et unique le mystère de Dieu. Donc, un couple évangélise naturellement. S'il est fidèle au mariage. Première manière d'évangéliser pour un couple, c'est pas de courir à droite et à gauche pour rendre service au curé, même si on a besoin d'aide, mais c'est de s'appliquer d'abord à cette unité. Parce qu'on voit bien que des enfants qui n'ont pas pu respirer, hein, cette bonne odeur du royaume de Dieu, cette beauté du royaume de Dieu à travers cette communion effectivement vécue, et qui ont vu des parents trop dispersés, dissipés par rapport à cette vocation première, Ensuite, ils n'ont pas nécessairement la foi, même si on leur fait faire beaucoup de choses dans la paroisse. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une fidélité à cette vocation première dans la foi, en ce que cette union des dieux, elle est première mission évangélisatrice. En même temps, on va insister sur le fait que cette union, elle est faite pour être ouverte aux autres. Hein. Ce n'est pas un petit cocon. Hein. Bon, ça c'est la première chose, parce que vous comprenez bien que la communion conjugale, elle s'élargit donc en communion familiale, dans la mesure où les enfants goûtent cette communion, sont attirés par cette vie d'amour qui se vit entre leurs parents, et découvrent ainsi le royaume de Dieu, et deviennent eux-mêmes capables de vivre la communion. Réfléchissez bien, les enfants sont conçus par l'union des deux, et ils sont éduqués, élevés, fondamentalement par l'union des deux. Ce qui est inscrit au moment de la conception, comme Dieu a voulu la conception, dans l'union des deux, eh bien, l'éducation, elle est ce qui est la continuation de la procréation, se réalise aussi essentiellement par la fécondité, le rayonnement de l'union des deux. Donc, autant le dire tout de suite, le plus beau cadeau que des parents puissent faire à leurs enfants, c'est d'être unis. Et de cette communion conjugale, donc, découle une communion familiale. Et la communion familiale, elle reflète évidemment elle-même le mystère de Dieu. Ici, on pourrait risquer une certaine analogie. Vous voyez, le Père et le Fils, du Père et du Fils procèdent l'Esprit Saint, qui est appelé aussi le fruit de l'amour, le sceau et le fruit de l'amour du Père et du Fils. Donc il y a une certaine analogie, même avec la famille, en tant que il y a l'Esprit qui procède des deux. Il ne faut pas tirer trop sur la corde. Hein. Mais ici, je dirais, il y a une certaine analogie, mais il faut. Entre le mystère de la Trinité et le mystère de la famille, je dirais, qui dit analogie, dit une petite ressemblance dans une grande différence. Hein. On est bien d'accord. Mais malgré tout, il y a le fait qu'il y a un troisième qui procède des deux, dans la Trinité. Il y a une fécondité en Dieu, fécondité de l'amour du Père et du Fils. Donc on peut dire que la famille reflète d'une manière aussi toute particulière le mystère trinitaire. Écoutez, Jean-Paul II, la famille chrétienne est une révélation et une réalisation spécifique de la communion ecclésiale. C'est pourquoi elle peut et doit se dire église domestique. Une église qui est faite donc pour rayonner sur le monde, qui n'est pas faite pour se replier sur elle, mais pour être comme une oasis. C'est bien ça?
C'est comme la prière tout à l'heure. Hein.
Oui.
On n'en avait pas parlé avant pourtant. Mais en fait, on a été très marqués, Philippe et moi-même, il y a une vingtaine d'années, par un enseignement qu'on nous avait donné en nous disant il y a une tentation dans la famille pour se protéger, de construire des gros remparts autour et de fabriquer nous-mêmes notre protection et de un peu se replier sur soi-même parce qu'on est dans un monde difficile, que les enfants peuvent avoir des expériences douloureuses en dehors de la famille. Et donc un peu une tentation de surprotection des enfants et de la famille. Et on nous avait dit, la famille, alors j'avais compris que ça venait de Jean-Paul II, mais comme je n'ai pas retrouvé la référence, on reste prudent, mais la famille doit être plus une oasis qu'une forteresse. Et que pour que la famille, le fait que la famille soit une oasis, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit vraiment branchée sur la source, autrement elle serait en danger, puisque l'oasis est ouvert à tous les vents. Donc ça veut dire que la famille doit être accueillante, mais à condition d'être vraiment branchée sur la source. Et les remparts qui nous protègent, on a vu tout à l'heure dans la parole que c'était les remparts, c'est le Seigneur qui est notre rempart et qui nous protège. Et nous, ça nous a énormément aidé dans l'accueil à la maison. On a fait plusieurs années famille d'accueil avec nos enfants. Et ça nous a énormément fait réfléchir, de se dire, est-ce qu'on fait rentrer le loup dans la bergerie, d'accueillir des jeunes blessés à la maison, est-ce qu'on ne prend pas des risques? Et on s'est dit, ben non, si on fait confiance et si on fait attention, avec des règles, bien sûr, en faisant attention, si on fait confiance à cette présence de Jésus à la maison, eh bien, il nous protégera. Et vraiment, on peut dire qu'il l'a fait, quoi. On peut le témoigner longtemps après que on a eu beaucoup de jeunes cassés à la maison et qu'il n'y a pas eu de dégâts dans nos enfants. Mais donc voilà. Ça nous a, nous, en tout cas, tu confirmes,
hein. L'oasis, c'est pour qu'on puisse boire. Et qu'est-ce que les gens boivent quand ils s'approchent d'une famille vraiment chrétienne? Ils boivent la connaissance de Dieu, l'eau vive de la sagesse. Je pense que c'est toujours bon de se rappeler qu'on vit pour Dieu. Là, ça prend un sens très précis. On vit pour Dieu, on vit pour laisser voir Dieu, pour laisser transparaître Dieu dans un monde qui s'est éloigné et qui ne connaît pas son vrai visage. Et c'est le plus grand service qu'on puisse rendre aux autres. Service de la vérité qui sauve. On peut dire que par le sacrement du mariage, les époux sont consacrés au service de Dieu, de la révélation de Dieu, avec cette exigence particulière, donc une fidélité à la vie commune. Il m'est revenu la méditation de Benoît XVI à propos, lors des JMJ à Cologne, à propos des rois mages, qui découvre le vrai visage de Dieu en contemplant l'enfant Jésus. Ils ne se poseront plus la question « à quoi cela me sert-il ? À quoi Dieu me sert ?» Donc, c'est la question habituelle qu'on se pose. Hein. C'est « la foi, je veux bien, mais à quoi ça sert ?» Et ils devront au contraire poser la question « avec quoi est-ce que je sers la présence de Dieu dans le monde ?» Décentrement de soi. C'est pas à quoi Dieu me sert, mais comment je sers Dieu, sa présence dans le monde. Le grand défi, c'est pour toute famille chrétienne de passer des liens de la chair et du sang à une vraie communion de cœur et d'esprit dans cet amour nouveau que Jésus est venu répandre dans le monde pour que nous puissions être vraiment unis à Dieu et vraiment unis aussi les uns aux autres. Donc, si vous m'avez bien suivi, il ne s'agit pas simplement d'arrondir les angles. Je veux dire, au sens de prendre des liens humains, des liens des atomes crochus, tout ce qui fait qu'il y a une certaine unité qui est là au niveau psychique. Si on se marie, c'est parce que quelque part il y a une capacité naturelle humaine d'une certaine union qui se ressemble, s'assemble. S'il y a une complémentarité naturelle, et il s'agit de passer de ce lien-là à une communion nouvelle, qui est d'un autre ordre. Il y a des couples qui s'entendent vraiment pas du tout humainement, qui ont des caractères je dirais, aux antipodes, et qui, par la profondeur de leur vie spirituelle, arrivent à vivre une vraie communion. Mais je ne dis pas qu'il faille pour autant, pour se livrer à cet exercice, épouser la personne la plus antipathique. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement qu'on ne peut pas se satisfaire de liens affectifs naturels si on veut être fidèle au mariage, si on comprend quelle est sa signification profonde, il faut passer sur une autre rive, passer à une dimension nouvelle. C'est pas l'affection humaine spontanée qui peut refléter Dieu. Pas un amour psychique qui peut refléter Dieu. Peut-être qu'un amour qui vient du cœur du Christ, mais encore une fois, qui est donné dans le mariage, moyennant le fait qu'on vive à la grâce du baptême, hein, qui en définitive s'enracine dans cet amour nouveau qui a été répandu dans nos cœurs le jour de notre baptême. Donc je dis, on ne peut pas se contenter d'une spiritualisation superficielle des relations humaines. Mais il y a passé donc, dans une profondeur nouvelle que Jésus exprime quand il dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ou encore, amen, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou champ à cause de moi, à cause de l'évangile, qu'ils nous reçoivent le centuple dès maintenant, temps présent en maison, frère, sœur, mère, champ, enfant, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus peut signifier à travers ces paroles qui appellent à un renoncement, à un détachement, si ce n'est de se détacher d'une manière humaine d'aimer, pour entrer dans une manière divine d'aimer. Mais ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas spontanément et naturellement. Je crois que beaucoup de couples stagnent, tout simplement parce qu'ils confondent l'amour humain et l'amour divin. Du moment qu'on s'aime, qu'on s'entend bien, qu'on est, bien accordé, parce qu'on a les mêmes goûts et qu'on pense la même chose, eh bien, pourvu que ça dure, on prie un peu Dieu pour que ce soit un peu plus solide, mais on n'a pas nécessairement la pensée qu'on est appelé à une communion de cœur qui est bien plus, mais bien autre chose que simplement une communion psychique. Est-ce que je me fais bien comprendre? Est-ce qu'il y aurait un couple proche de moi qui voudrait témoigner?
C'est d'ailleurs pas forcément toujours facile de voir que plus on avance dans notre vie de couple, plus en même temps on a l'impression que notre amour s'approfondit, et plus en même temps, enfin en tout cas moi c'est ce que je ressens, plus je sens que nous sommes très loin en fait de cette communion à laquelle nous sommes profondément appelés en Dieu. Et combien en fait c'est à partir des toutes petites choses, des toutes petites choses quotidiennes qu'on est appelé à poser un regard d'amour sur l'autre qui est celui de l'amour de Dieu. Et combien au quotidien, ce sont des petits actes de foi tout simples, mais qui nous permettent d'approfondir cet amour en Dieu.
Moi, je me dis aussi que dans la parole du Seigneur qui vient de nous être donnée, là, si quelqu'un ne vient pas à moi sans quitter père, mère, etc., on a le sentiment, enfin, moi j'ai eu longtemps le sentiment que le Seigneur me retirait. Il demandait il me retirait des choses, enfin des affections, etc. Et en fait, j'ai le sentiment qu'en fait, il nous apprend vraiment à rentrer dans le fait qu'il nous donne en plus. Mais on a toujours, enfin moi je l'ai longtemps perçu comme ça et j'ai eu du mal à comprendre ça.
Quand je dis passer des liens de la chair et du sang à des liens d'esprit et de cœur, en fait ça s'applique peut-être plus encore aux liens qui nous rattachent à nos parents, qui nous rattachent quelquefois aussi de manière très forte à nos frères et sœurs, bref, les liens de parenté. On ne peut pas dire que la relation de couple comme telle soit une relation de chair et de sang à proprement parler. Il y a des affinités psychiques qui font que, on peut être très, humainement collés l'un à l'autre, mais il y a quelque chose de spécifique dans les liens, qui sont des liens liés à la génération. D'ailleurs, Jésus insiste d'abord sur ces liens-là. Nul ne leur a laissé frère, sœur, père, mère, enfant. Et pourquoi ces liens sont particulièrement visés par Dieu? Parce que ils ont une force naturelle telle qu'ils pourraient, rendre humainement difficile et même quelquefois impossible la communion conjugale. Ici, j'ai pas besoin de m'étendre. Hein.
Je dirais même si on a l'impression que la relation avec les parents est bien coupée géographiquement, ou même si on ne s'entend pas spécialement avec ses parents, il y a quand même un travail à faire dans ce domaine. Bon, j'ai mis longtemps à comprendre ça, me dire que c'est pas uniquement. Même si on a une relation très lointaine, eh bien, on est imprimé par ça. Et il y a vraiment un travail à faire de détachement pour un attachement même vis-à-vis de nos parents qui soit plus sain.
Je suis très frappé quand au niveau pastoral, quand j'ai affaire à des personnes qui sont qui viennent directement d'Afrique, notamment, de voir à quel point il y a une image de la famille large, c'est un peu la tribu familiale, et la relation de couple, elle est relative à ça, d'abord on peut avoir, plusieurs femmes, et l'important c'est la dépendance d'abord à ses parents, à son clan familial propre. L'Église a toujours dit qu'à partir du moment où il y a mariage, il y a une nouvelle Église domestique. C'est un peu, si vous le voulez, comme pour ces églises particulières qui sont les diocèses. Jérusalem a été l'Église première, puis après il y a eu l'Église qui s'est fondée à Antioche. Dans les grandes villes proches, mais à partir du moment où l'Église est constituée, elle a sa dignité propre, on peut dire son autonomie, par rapport à l'Église mère. Il n'y a plus de lien de dépendance. Alors, à partir du moment où il y a le sacrement de mariage, voilà, une nouvelle Église est constituée, qui a à vivre sa communion sur la base du sacrement de mariage. Qui n'est pas une, autrement dit, qui n'est pas une filiale de l'Église mère. Un prolongement, oui.
Absolument.
Ça, nous, on a 7 de nos enfants qui sont mariés, et ça me frappe énormément de voir la différence essentielle qu'il y a. Enfin, il n'y en a pas deux pareils, quoi. Et ça, c'est une joie. Je me disais, si on avait fait un modèle unique catastrophe, quoi. Là, c'est vraiment, même à tous les niveaux, au niveau de la prière familiale vécue chez les uns, chez les autres, vraiment très différemment. Mais même l'ambiance générale, c'est, on passe d'un couple à l'autre, c'est vraiment carrément différent, quoi. Et ça, je trouve ça génial.
C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Quelqu'un veut une suite, il renonce à père-mère. Ça vient en premier dans l'évangile. Ainsi, un renoncement aux frères et sœurs. Mais tout ça, c'est pour établir une communion nouvelle. C'est un détachement pour un attachement plus profond. Enfin, un attachement, plutôt une union plus profonde. Ce sujet-là, Anne-Claire, tu m'avais témoigné que tu ressentais, ayant vécu profondément cette exigence de lâcher tes enfants, tu le sentais qu'en même temps, ils revenaient vers vous.
J'ai eu le sentiment pour beaucoup d'être obligée de faire un travail sur moi et de m'interdire beaucoup de choses pour ne pas mettre la main sur eux, quoi, pour que... Donc il y a concrètement des choses qu'on s'interdit de faire pour que les enfants, enfin pour faire ce travail de séparation. Je pense que, par exemple, concrètement, quand j'ai un de mes fils qui me téléphone en me demandant conseil pour quelque chose, je m'oblige à lui demander, t'as demandé à ton épouse, t'as demandé à ta femme ce qu'elle en pense. Parce que on se rend compte que les enfants, ils ont pris l'habitude de nous demander, et puis... voilà, et nous, on peut être attentif à renvoyer ou alors, au contraire, à mettre la main sur eux. C'est vraiment une discipline parce que je me fais souvent piéger. Donc, il y a vraiment à faire attention.
Ou du belle-mère.
Oui, attention à la belle-mère.
Bon, c'est un long chemin de détachement. Hein. L'efficacité de l'affectivité, c'est pas... Ça ne se fait pas simplement parce qu'on le veut, mais il y a à se laisser conduire par Dieu sur ce chemin. C'est le père Thomas Philippe, à l'origine de l'Arche, hein, qui était le père spirituel de Jean Vanier, vous avez remarqué que l'expression « pièce rapportée » est éloquente, entre guillemets. Vous voyez, par rapport à un certain primat des liens de la chair et du sang, conjoint, c'est la pièce rapportée. Et que à ce niveau-là, la relation conjugale est fragile par rapport à ces liens de la chair et du sang, et qu'elle a besoin d'être fortifiée. Que précisément, le sacrement est là pour la protéger. Oui.
Quand je suis arrivée dans la famille de Jean-Pierre, j'ai été remarquée comme une valeur ajoutée.
Valeur ajoutée, c'est déjà mieux que pièce rapportée. Mais enfin, c'est ajouté par rapport à quelque chose qui se veut un peu comme englobant, alors qu'en réalité, il s'agit de fonder une nouvelle Église. Et pas de rajouter à l'ancienne. En fait, qu'est-ce qu'on essaye de... On tourne autour de quoi, là? On tourne autour que cette réalité de la famille, qui est en même temps une réalité profondément humaine, elle doit s'insérer dans une réalité surnaturelle qui est l'Église, hein, rentrer dans une nouvelle communion. Et cette vision, en fait, nous fait comprendre que l'Église, elle est une grande famille. Je m'appuie ici sur les paroles mêmes de Jésus. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là m'est un frère et une sœur et une mère. L'Église est une grande famille, et la petite Église qu'est la famille doit se vivre à l'intérieur de cette grande famille qu'est l'Église. Donc toutes ces relations qui sont naturelles, humaines, d'attachement les uns aux autres, doivent être reprises à l'intérieur d'un mystère qui fait que, je dirais, cette réalité humaine peut effectivement avoir une fécondité spirituelle, c'est-à-dire donner Dieu. donner Dieu au monde, donner Dieu aux enfants. Quand Jésus dit « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là m'est un frère et une sœur et une mère », il nous fait comprendre quoi, au fond? Que cette communion nouvelle, qui donc suppose un amour nouveau, elle a comme condition, sine qua non, quelle est la caractéristique de cet amour nouveau? C'est qu'il cherche d'abord la volonté de Dieu. C'est un amour obéissance à Dieu. Autrement dit, si je veux, je dirais, travailler à rentrer dans cette communion nouvelle, la première question que je peux me poser, c'est à qui je cherche à plaire? À mon conjoint? À mes parents? À mes enfants? Ou à Dieu? Ça, c'est dans le quotidien, ça. Ça me rappelle une histoire, m'a racontée une femme mariée qui m'avait dit que pendant plusieurs jours, elle avait mis un bouquet le soir pour accueillir son mari. Et pendant plusieurs jours, le mari n'a rien vu de l'effort qu'elle faisait en mettant ce bouquet dans le salon pour témoigner de son amour pour lui. Et il y a eu un jour où elle dit, elle dit au Seigneur, ben Seigneur, puisqu'il ne voit rien et tout ça, je le fais plus pour lui, je le fais pour toi. Et évidemment, vous devinez la suite. C'est que c'est ce jour-là que son mari lui a dit, mais quand même c'est gentil d'avoir pensé qu'il a été touché. Bon, alors c'est comme un peu une parabole pour dire que c'est quand on ne cherche pas d'abord à plaire à l'autre et qu'on cherche d'abord à plaire à Dieu, c'est-à-dire quand on cherche d'abord le royaume de Dieu, hein, que par surcroît, et donner cette capacité d'une union en Dieu. Et ce qui touche le plus l'autre, en fait, c'est cet amour nouveau, même si on n'est pas, on lui a pas dit « j'ai fait ça pour Jésus, j'ai pas fait ça pour toi », c'est pas la question. Elle a simplement mis en premier la relation à Dieu, et en mettant en premier la relation à Dieu, sa relation à son conjoint en a été de fait transformé. Autrement dit, ça nous ramène à quelque chose que nous avions vu l'année dernière. Et ce qui purifie nos relations d'amour et ce qui purifie notre... qui rend possible une vraie communion de cœur et d'esprit, c'est l'adoration. L'adoration de Dieu. Une famille unie, c'est une famille qui adore Dieu et qui se retrouve dans cette adoration commune de Dieu. C'est dans l'adoration de Dieu, l'adoration filiale, aimante de Dieu, que nous retrouvons frères et sœurs unis sous le regard d'un même et unique Père. Et si c'est en adorant Dieu qu'on permet à Dieu de rentrer dans la relation, c'est en adorant Dieu que l'on laisse aussi, on laisse Dieu donc se voir à travers nous, que se vit cette communion. Eh bien, il faut penser que le rayonnement, voyez, de cette vie de couple, de cette vie familiale, va dépendre de la pureté de notre cœur, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la parole de Jésus, lorsque ton œil est simple, ton corps tout entier aussi est lumineux, c'est-à-dire quand ton œil est purement tourné vers Dieu, est vraiment tourné vers Dieu, quand ton cœur est tourné vers Dieu, alors ton corps tout entier est lumineux. Si tu regardes vers Dieu, tu laisses voir Dieu. J'insiste pas trop là-dessus, mais c'est ce qu'on a appelé dans la tradition de l'Église le mystère de la lune. C'est-à-dire la lune, elle reflète la lumière du soleil pour autant qu'elle regarde vers lui. Si je regarde Dieu, vers Dieu d'abord, si je cherche d'abord Dieu, je cherche d'abord le royaume de Dieu, tout ce que je peux dire ou faire, de manière toute simple, reflète Dieu. Ce que je vois, ce que je regarde, je le laisse voir aux autres. C'est tout simple, la vie chrétienne. Elle est faite pour être tournée vers Dieu et refléter Dieu dans le monde. Aimer l'autre, c'est pas l'attirer à soi, c'est lui donner Dieu. C'est le nourrir de Dieu. De quoi nous serons reconnaissants les uns aux autres pour l'éternité? De nous avoir donné Dieu les uns aux autres. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de rechercher la sanctification. Maintenant, pour terminer, j'ai jusqu'ici parlé de l'Église comme communion, à partir de cet amour profond, nouveau, que Jésus nous donne de vivre en lui. Mais l'Église, elle est aussi une société visible qui a des moyens et des signes concrets. Elle n'est pas simplement une communion, mais elle est aussi une communion organisée, avec des signes et des moyens concrets. Ce sont les sacrements d'abord, et puis aussi, ne serait-ce que l'édifice de l'Église. L'Église, elle est, je dirais, une société visible, organisée, et la famille doit l'être aussi. Et je voudrais ici laisser la parole au couple pour dire comment ils organisent, entre guillemets, cette communion, comment les moyens qu'ils ont concrets pour vivre cette communion familiale, pour que leurs enfants puissent respirer Dieu.
Nous avons 5 enfants qui ont entre 16 et 6 ans. Donc ce sont des rythmes qui sont assez différents les uns des autres. Et donc la prière familiale que nous vivons aujourd'hui est assez différente de ce qu'elle a pu être quand les enfants étaient plus petits. Par exemple, hier soir, on aime bien le dimanche soir, on ne réussit pas toujours, mais on aime bien le dimanche soir, à la fin du week-end et avant le début de la semaine, après le repas, prendre un temps de prière. Donc, hier soir, on a pu prendre un temps de prière qui s'est déroulé sous la forme d'une dizaine de chapelets où j'ai dit en laissant de la place tant pour des cris que pour des intentions de prière. Il y a vraiment tout eu. C'est un exemple. C'est vrai qu'avec l'âge très différent des enfants, on ne prend plus tellement de temps de prière tous ensemble en semaine, parce que c'est simplement pas possible, c'est pas compatible avec les horaires des uns et des autres.
Disons que c'est plus difficile aujourd'hui d'être tous les 7 ensemble avec adolescents, petits, mais je crois que ce qui touche les enfants, en fait, c'est de sentir que vraiment le Seigneur est présent dans notre famille. Alors parfois, c'est vrai que ça va être... avec les petits, on fait assez facilement tous les soirs la prière avec eux avant de se coucher. Et puis les grands, quelquefois, il y en a... au moment où on va dire bonsoir à l'un dans sa chambre, c'est l'occasion peut-être avec l'un ou l'autre de, de dire une petite prière ensemble, ou au contraire, c'est une fois que la porte de notre chambre est fermée et que nous, ça nous arrive de prier tous les deux, qu'il y a un petit qui rentre ou un grand, et qu'à ce moment-là, il participe à cette prière qui était notre temps de prière en couple et à laquelle ils se joignent aussi volontiers. En fait, la prière, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle prend des formes pas très organisées. Mais en même temps, le Seigneur est vraiment présent aussi, quelquefois au cœur d'une démarche. Je sais pas, il y a pu y avoir une dispute, là, au cours d'une démarche de réconciliation. Là, on peut se demander pardon aussi devant le Seigneur, avec les enfants.
L'année dernière, quand on était à l'appareil manial, à la fin d'une session, on a choisi, avant de repartir en voiture, de prendre une heure ensemble pour aller à pied dans deux chapelles, c'est-à-dire pour prier en famille. Et souvent, quand on se promène, notamment pendant l'été, parce qu'on aime bien marcher, voilà, souvent on aime bien en famille rentrer dans les églises, alors, quand il y a plusieurs villages, il y a plusieurs églises, voilà, et dire, soit prendre un petit temps de prière, parfois pas très long, ou chanter un chant.
Les paroisses, elles ont des liturgies assez différentes. La famille a sa liturgie propre.
Alors, nous, on a beaucoup déménagé, mais dans tous les lieux où nous avons habité, nous avons toujours installé un lieu particulier de prière pour la famille, parce qu'on sait dans lequel qu'on essaye de faire joli à notre goût, et dans lequel on va mettre aussi bien des statues ou icônes qui nous plaisent, mais aussi des gens qui sont partis au ciel et qui prient avec nous, on les a en photo. Et on a donc ce lieu de prière où on vit énormément d'événements, où on a vécu beaucoup d'événements familiaux. À chaque fois, on allait devant pour partager, aussi bien partager la parole de Dieu ou faire une louange, ou c'est assez varié. Quand les enfants étaient petits, c'était beaucoup plus réglo. En grandissant, ça devient plus fantaisiste. Mais ça a toujours été un lieu où on vit beaucoup de choses, même des prières de couple ou avec un seul des enfants. Ça nous est arrivé de prier quand on voyait qu'un enfant n'allait pas bien, de le mettre entre nous deux, de lui imposer les mains et de prier pour lui. Et les enfants aimaient ça, adoraient ça. Le fait d'avoir commencé très jeune, très petit, dès qu'ils sont petits, à prier ensemble, ça, c'est beaucoup plus facile que quand on prend ça en cours de route. Mais l'enfant petit aime ça. Et nous, pour nous, c'est souvent les petits qui ont été la discipline pour nous. Quand le soir, on avait envie de les expédier au lit et d'aller plus vite, et c'était toujours les petits qui râlaient en disant « Mais non, la prière !» Et donc nous, c'était bien, on se disait les petits nous disciplinent, on a eu pas mal de petits longtemps, et ils nous ont disciplinés, parce que pour eux, c'était pas possible d'aller se coucher sans la prière. Et ça prolonge, et puis en même temps, puis ils aiment ça. Et là, récemment, j'ai eu un mail d'une de mes filles qui m'a fait un petit témoignage sur nos petits-enfants en prière. Et alors eux, quand on va chez eux, c'est sympa, ils ont une façon de prier, ils ont un coin de prière sympa, ils ont une façon de prier assez
très libre,
où les enfants s'expriment énormément. Et je dis à ma fille, comme ils font des sorties toujours qui me bluffent, alors je dis à ma fille, tu m'envoies ça par mail, parce que ça, comme ça on participe. Et là, elle m'a envoyé, il y a 15 jours ou 3 semaines, un mail. Alors, il y a Jean qui a 6 ans et Pierre qui a 11 ans. Philippine est là aussi. Mais Philippine est polyhandicapée. Mais elle est très présente. Et quand il y a la prière, elle tape sur sa table. Elle fait du bruit. Dès qu'on chante ou qu'on fait de la guitare, elle est pourtant sourde. Elle doit sentir les vibrations. Et elle bat la mesure pendant toute la prière. Et elle a un air d'extase. Elle a l'air ravie. Donc elle participe aussi à la prière. Et c'est amusant parce qu'elle n'a absolument pas la même attitude pendant la prière qu'en dehors de la prière. Donc ça fait partie de son mystère. Et donc Jean, qui a 6 ans, dit tout d'un coup, parce qu'il partage sur l'évangile, et il dit, pourquoi Jésus, il va dans un endroit désert pour prier, il n'y a pas de croix et il n'y a pas de bougie. Parce que dans le coin de prière, il faut une croix et une bougie. Alors Jésus devant la croix, évidemment. Bon, et il y a Pierre qui dit « Ah, oh, c'est étonnant parce que la croix est un signe. » Il y a Jean qui l'interrompt en disant « De mort et de vie. » Et Pierre rajoute « De victoire », alors que pour les Romains, c'était un supplice. Et ma fille demande à Jean « Jean, pourquoi tu dis que la croix est un signe de mort et de vie ?» Et Jean répond parce que... Jean, qui a 6 ans, répond « Parce que Jésus meurt et ça nous donne la vie. » Et en fait, moi, je me régale en voyant mes petits-enfants les commentaires qu'ils font. Et ça reste pas, ça. Quand ils sont ados, c'est plus ça. Alors, faut en profiter. Hein. On a un autre de nos fils qui est marié maintenant et qui, quand il avait 6 ans, il a fait sa première communion. Et en revenant de la communion, et dans sa classe... il était seul à avoir fait sa première communion si jeune, et tous ses copains lui disent « Alors, ça le goûte quoi, ça le goûte quoi ?» Et il est rentré, et puis avec un air d'opte, il a dit « Ça le goûte l'amour. » Mais des perles comme ça, on les écrit maintenant, parce que les enfants, ils nous en sortent sans arrêt, et je me dis « C'est dommage de ne pas en profiter, quoi. » Il faut vraiment les faire réagir sur la parole de Dieu, les faire... c'est étonnant tout ce que... Moi, ça m'a toujours étonné comme c'est naturel pour eux, même ceux qui sont des hyper agités. On en avait un, c'était pas possible de le tenir à genoux, bon, donc on avait renoncé depuis longtemps. Il courait partout, il était envoyé jamais. Partout où il était, même sous une table ou ailleurs, loin de l'endroit où on était tous à prier, quand même, il intervenait. Et à bon escient. Donc, il suivait. Donc, il n'y a pas, on n'a pas obligé à être à genoux. L'enfant, il peut, si c'est trop dur pour lui, s'agiter, c'est pas grave. Mais quand même, on s'est rendu compte que pour eux, c'était important. En tout cas, on voit les petits enfants maintenant le faire. Et donc, c'est un lieu en même temps de combat, hein, parce que surtout pour nous, en fait, le soir, on était crevés, on avait souvent envie de. Donc c'est un lieu de combat, mais bon, c'est un lieu de beaucoup de grâce, donc voilà.
Alors simplement, je peux ajouter, c'est étonnant, mais on a toujours dit aux enfants que la prière n'était pas obligatoire. Parce qu'on s'est toujours dit que, à partir du moment où ça devient une espèce de contrainte, bon, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, je ne vous dis pas que c'est la bonne solution, mais ce qui est étonnant, c'est que pratiquement, on n'a jamais eu d'enfants qui n'ont pas assisté. Alors c'est arrivé quelques fois, mais très rarement. Et très vite, ils sont revenus par eux-mêmes. Et puis, sur ce que disait Anne-Claire à propos de l'attitude des enfants dans ce genre de situation, je me rappelle aussi d'un autre enfant qui avait été infernal, là, c'était à la messe, qui n'était pas en place, etc. Et donc, à la sortie, je me concertais avec Anne-Claire, et puis je lui dis quand même, ça suffit, je lui rentre dans le lard. Quoi. Bon. Et à ce moment-là, cet enfant vient vers nous, et puis très spontanément, de façon enfin, vraiment pas calculée, quoi, il nous dit « Ah là, les parents, c'était super amené, j'ai jamais aussi bien prié.
» Mais c'est, en tout cas, nous, on a constaté que même insupportables, ils aimaient ça. Et je vous disais, une prière qu'on a fait beaucoup et qui a porté beaucoup de fruits, et je m'en rends compte maintenant, c'est de prier pour un enfant tout seul de temps en temps. On a eu une de nos filles, une fille jumelle qui a perdu sa jumelle. On a un enfant qui est mort à l'âge de 5 ans. Et on a souvent imposé les mains à Béatrice qui souffrait beaucoup, qui avait des conséquences assez perturbantes de la mort de sa sœur. Et on la mettait entre nous deux, on lui imposait les mains et on priait. Elle avait toujours à ce moment-là un air tellement heureux que on se disait ça serait dommage de ne pas le faire, quoi. Et on a vu vraiment des belles choses. On a, dans la prière, comme ça, pour un enfant particulier, on l'a fait pour pas mal de nos enfants, prier pour un tout seul en lui imposant les mains, on a vu des très belles choses, des guérisons vraiment. Que je me suis dit, par la grâce du sacrement de mariage, je suis sûre qu'il y a des guérisons pour nos enfants et que c'est dommage de pas en profiter. Et voilà, donc ça, on l'a expérimenté. Je pense que même encore maintenant, avec notre dernière, on l'expérimente. Mais alors maintenant, ça devient de plus en plus pauvre parce qu'ils sont tous partis, quoi. On n'a plus qu'une. Mais même avec elle, on se rend compte que souvent, même aussi certains enfants qui ne voulaient pas, parce que trop en souffrance, ne voulaient pas qu'on prie pour eux. On attendait qu'ils soient endormis, on allait leur imposer les mains au-dessus de leur lit et prier pour eux. Et on voyait aussi des effets. Voilà.
La Claire dit, par la grâce du sacrement de mariage, hein, c'est la promesse de Jésus, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là présent au milieu d'eux, il n'y a pas de personne plus unie au nom de Jésus qu'un homme et une femme mariés. Et donc il y a une présence particulière de Jésus au moment de la prière, qui fait que la prière familiale a une force toute particulière. C'est dommage de ne pas en profiter. Moi, je n'ai jamais prié avec mes parents, et vous voyez, j'ai bientôt 50 ans, ça me manque encore. Parce que c'est unique. C'est une forme de prière, je n'ai pas goûté. L'Église distingue trois prières, la prière personnelle, la prière familiale et la prière liturgique. Et donc, je dirais, profiter de toutes les occasions pour le vivre. Et je voulais terminer en vous disant que j'ai un désir dans mon cœur de pasteur. C'est que pour que cet esprit d'adoration qui est à la base de tout puisse être vécu, il y a un moyen simple que la tradition de l'Église depuis plusieurs siècles nous propose, qui est de la consécration des familles au cœur de Jésus. Je fais que lancer ça, on aura l'occasion d'en reparler, ça se vit à parrainmonial, mais ça se vit depuis 3 siècles dans l'Église au moins. Consécration au cœur de Jésus, c'est accepter jusqu'au bout, je dirais, d'être appelé à vivre d'un amour qui n'est plus notre propre petit amour humain, mais cet amour qui est dans le cœur de Jésus, pour que de fait la famille puisse s'édifier comme une petite église. Ah oui, je voulais juste rajouter une chose. Nous, comme prêtres, quand on célèbre la messe, qu'on est trop inquiet de faire prier les paroissiens et qu'on ne prie plus parce qu'on veut faire prier les autres, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est quand on prie vraiment, à ce moment-là, ça suit. Donc ce n'est pas tant de faire prier les enfants que de plonger dans cette communion avec Dieu pour que, de fait, ça se propage. Parce que ça fait tache d'huile.